VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h temps universel dans 10 minutes, Sahel plus avec Claire Morin-Gibourg, mais tout d'abord le journal. En RDC, libération de l'Américain accusé de mercenariat dans le pays par la justice congolaise. Daryl Lewis a été remis aujourd'hui à l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. L'enquête reste ouverte, explique la justice congolaise dans cette affaire très médiatisée, visant également l'opposant Moïse Katumbi, candidat à la présidentielle censée avoir lieu avant la fin de l'année et ex-gouverneur du Katanga. Et toujours concernant la politique en RDC, ouverture aujourd'hui à Bruxelles de conclave de l'opposition congolaise autour du leader de l'UDPS, Étienne Tshisekedi. Presque toutes les tendances y sont présentes, notamment Moïse Katumbi et son G7, la dynamique de l'opposition et l'UNC, l'Union pour la Nation Congolaise de Vital Kamerhe, qui lui n'est pas personnellement venu à la réunion. Le conclave va durer 2 jours. Les objectifs visés à Bruxelles, selon Bruno Tshibala, porte-parole du conclave.
C'est important de structurer, d'unifier l'opposition et la société civile qui est acquise au changement. Et donc il s'agira de comment rassembler l'ensemble de forces politiques acquises au changement, comment arriver à, avec les avis, les observations de chacun, d'arrêter les stratégies pour arrêter la crise politique qui s'est vue au pays et conjurer le chaos qui se profile à l'horizon. Évidemment, il y a une procédure pour arriver à tout cela. Nous sommes attachés au dialogue. Le dialogue fait partie de l'ADN de notre pays, de notre peuple. Et donc, nous allons aller au dialogue pour rechercher un consensus sur le processus électoral, mais dans le respect de notre constitution et des délais. Et voilà pourquoi nous sommes ici à Bruxelles.
Bruno Tshibala, porte-parole d'Étienne Tshisekedi et secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. La lutte contre Boko Haram maintenant, quelques 2000 militaires de l'armée tchadienne font mouvement vers le Niger voisin, cible vendredi dernier d'une attaque massive des islamistes nigérians à Bosso, dans l'extrême sud-est du pays. Ces troupes tchadiennes, très bien équipées, ont entamé leur déplacement lundi et ont pour consigne de traquer partout les éléments de Boko Haram une fois arrivés à destination. Toujours concernant le Tchad, menace de grève des magistrats tchadiens. Ils ont donné un délai de 4 jours au gouvernement pour retrouver les chefs militaires qui ont agressé leurs confrères juge de la paix à Bagassola, localité située dans la région du lac Tchad, en février dernier, en plein exercice de ses fonctions. En cas de non-satisfaction de leurs revendications, les magistrats vont observer une cessation de travail à partir du lundi 13 juin dans toutes les juridictions du pays. Centrafrique, un haut responsable de l'ONU, directeur des opérations sur le terrain auprès du haut commissaire pour les droits de l'homme, a démissionné de son poste pour protester contre la totale impunité dont jouissent des casques bleus qui ont violé des enfants en RCA. Le point avec Eric Manirakiza.
La nouvelle a été annoncée par l'ONG UN Watch dans un communiqué. Anders Kompas s'insurge contre tous ceux qui ont abusé de leur autorité. Il a également désapprouvé le manque de volonté de la hiérarchie d'exprimer tout regret. Selon lui, ceci confirme que l'ONU n'a pas l'habitude de rendre des comptes. Dénonçant donc la totale impunité, il a jeté l'éponge en regrettant qu'il lui soit impossible de continuer à travailler dans ces conditions. En 2014, le Suédois a favorisé la fuite d'un rapport confidentiel de l'ONU sur les abus sexuels dont sont victimes des enfants parce que l'ONU tardait d'agir. Le dernier rapport de Ban Ki-moon de 2015 a enregistré 69 cas d'agression sexuelle. La MINUSCA en Centrafrique et la MONUSCO en RDC se sont illustrés en cumulant plus de la moitié des cas. L'ONG UN Watch a estimé que Ban Ki-moon et Zeid Ra'ad al-Hussein, le patron du Haut Commissariat de l'ONU pour les droits de l'homme, doivent des excuses à M. Kompas, considéré comme héros dans sa tentative de protéger des enfants violés.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Nigeria, le groupe rebelle Les Vengeurs du Delta du Niger rejette l'offre de pourparlers proposée lundi par le gouvernement. Les détails avec Bagassi Koura.
Dans un message sur son compte Twitter, le groupe affirme qu'il n'est engagé dans aucune négociation avec aucun comité. Si le gouvernement fédéral discute avec certains groupes, ils le font de leur propre initiative, dit le groupe Les Rebelles du Delta. Le groupe affirme également avoir fait exploser vers 0h mercredi un puits du géant pétrolier américain Chevron à proximité immédiate d'une station de pompage installée aux alentours de la ville de Wari dans l'état du Delta. Ces derniers mois, ces rebelles s'en sont pris aux installations des filiales nigérianes, des grands groupes pétroliers étrangers Shell, Eni, Chevron et de la compagnie d'État nigériane NNPC. Selon le secrétaire d'État, la recrudescence des attaques contre les installations pétrolières ont fait chuter la production de brut à 1,6 million de barils par jour, bien en deçà des 2,2 millions prévus dans le budget 2016, déjà amputé par la chute mondiale des cours de brut. Les vengeurs du Delta du Niger se décrivent comme des hors-la-loi émérites et réclament l'indépendance des régions du Delta, mais ont assuré jusqu'à présent que leur combat serait pacifique.
Corne de l'Afrique, les enquêteurs onusiens recommandent au Conseil de sécurité de l'ONU de se pencher sur la situation en Érythrée, suggérant que les dirigeants de ce pays soient poursuivis par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Le point avec Maïlys Eagle.
Viol, castration, noyade, esclavage, emprisonnement, torture. Ce n'est qu'une liste non exhaustive des crimes contre l'humanité commis en Érythrée depuis 1991 et répertoriés dans un rapport de la commission d'enquête sur les violations des droits de l'homme de l'ONU, publié ce mercredi à Genève. État autoritaire, l'Érythrée est un pays où il n'y a pas de pouvoir judiciaire indépendant, pas d'assemblée nationale et pas d'institution démocratique. Le rapport de l'ONU souligne que les Érythréens sont confrontés entre autres à des détentions arbitraire. En conséquence, en plus de porter le dossier de la situation en Érythrée devant le procureur de la CPI, la commission demande aux États membres de l'ONU de poursuivre ou d'extrader tout individu suspecté de crimes internationaux présents sur leur territoire.
Course à la Maison-Blanche ici aux États-Unis, la bataille s'annonce très rude entre la démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump. Malgré leur victoire dans les primaires, ils sont les deux candidats les plus impopulaires selon les sondages déjà réalisés. Quels sont les défis à relever par Donald Trump et Hillary Clinton pour espérer gagner la Maison-Blanche en novembre prochain? La réponse du doyen du Centre international et professeur des sciences politiques et études africaines à l'Université de Floride à Miami, Dr. Leonardo Villalon, au micro d'Eric Manirakiza.
On n'a jamais vu un candidat comme Trump aux États-Unis dans l'histoire moderne des États-Unis au moins. Et il a des défis énormes, puisqu'il a des avis défavorables d'une très grande majorité des Américains. Et il a réussi à insulter beaucoup de groupes sociaux très importants aux États-Unis, notamment les minorités, mais aussi les femmes et d'autres. Nous avons vu que la bataille pour la nomination pour Clinton a été beaucoup plus dure que prévu. Et puis qu'elle aussi, elle a quand même un code très important des gens qui ont une vision défavorable d'elle-même. Et donc pour elle, le défi, c'est de pouvoir vraiment se positionner comme la seule alternative à Trump raisonnable pour une grande partie de la population. Le défi très important de pouvoir unifier le Parti démocrate qui a été quand même assez divisé. Les partisans de Bernie Sanders. Sanders a réussi à mobiliser une partie de la population et notamment les jeunes de façon extraordinaire aussi. C'est même parfois plus que Obama a pu faire en 2008. Et ces gens-là sont même très enthousiastes pour Sanders, mais pas pour l'instant très enthousiastes pour Hillary Clinton. Et donc pour elle, le défi, c'est de continuer cette mobilisation pour qu'à l'élection générale, ils voient leur intérêt à voter pour Clinton, même si ce n'était pas leur premier choix, pour éviter d'avoir une présidence de Donald Trump.
La campagne est surtout caractérisée par des attaques. On voit moins des projets de société. Est-ce que c'est une stratégie qui pourrait faire gagner le candidat le plus virulent?
Et du côté de Trump, pour l'instant, nous voyons qu'il ne propose pas quand même des grands projets. C'est surtout des attaques et une sorte de rhétorique qui dit « aie confiance en moi, je suis différent des autres ». Nous voyons qu'il y a quand même une partie de la population américaine qui en a vraiment marre avec la classe politique globale et qui semble être prête à appuyer Trump. N'oublions pas qu'en fait, ce n'est qu'une partie des républicains. Et nous voyons un des grands défis pour Trump aussi sera de gagner en fait le vote des républicains eux-mêmes. eux-mêmes. J'imagine qu'une grande partie va abandonner.
Est-ce que le Parti républicain, aujourd'hui, c'est un parti sans repère?
C'est absolument un parti sans repère. Trump ne soutient pas, en fait, les grandes lignes de ce parti en général. On a aujourd'hui, dans le New York Times, l'éditorialiste Thomas Friedman, très connu aux États-Unis, a fait un article très, très critique sur Donald Trump en parlant du fait qu'il nous faut un nouveau Parti républicain aux États-Unis qui revienne sur l'idée avec une idéologie du marché, une idéologie centre-droite qui soutient des choses raisonnables et que ce, on n'en a pas en ce moment aux États-Unis. Donc, c'est une partie vraiment très divisée en ce moment.
Leonardo Villalón joint à Miami en Floride.